France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Né en 1930 à Boston, Frederick Wiseman a commencé sa vie professionnelle comme juriste. Au milieu des années 60, alors qu'il était professeur de droit, il se lançait dans une aventure singulière, tourner un film documentaire consacré à l'hôpital-prison de Bridgewater, dans le Massachusetts, ville dont le nom indien est Titicut. Présenté dans des festivals du monde entier, Titicut Follies fit événement. Dès ce premier essai, le cinéaste avait trouvé la méthode qui resterait la sienne pour les quelques 40 films qu'il réalisera au cours des 5 décennies suivantes. Un tournage en équipe légère, avec un opérateur et un assistant pour la caméra, la prise de son étant assurée par lui-même. Puis un montage s'étalant sur de longs mois, le plus souvent une année. En 2008, c'est à Paris que Wiseman montait le film qu'il venait tout juste de tourner et qui sortirait l'année suivante sous le titre « La danse, le ballet de l'Opéra de Paris ». À cette occasion, Hélène Frappa eut la belle idée d'aller à sa rencontre pour l'interroger sur sa pratique. En s'appuyant sur l'analyse de Wiseman lui-même, mais aussi sur le témoignage de quelques spectateurs éclairés, elle proposait un portrait qui rend justice à la richesse et la complexité de l'une des œuvres de cinéma les plus importantes de notre temps. Les fantômes de l'opéra, Frederick Wiseman ou les scènes de la vie américaine, premier volet d'une émission en deux parties, diffusée pour la première fois dans Surpris par la nuit le 6 avril 2008.
Surpris par la nuit.
Les fantômes de l'opéra, Frederick Wiseman ou les scènes de la vie américaine. Une série de deux émissions proposées par Hélène Frappa et réalisée par Angélique Thibault. Chapitre 1.
Le cadre institutionnel permet à l'observateur de rejouer quelque chose de lui-même, quelque chose qui relève du mystère et de la menace, en s'éprouvant dans un espace à la fois clos et parodique.
Devant derrière les tis, tac tac tac. Non, je parle derrière, si je peux dire.
C'est là en fait que nous l'envions, car celui qui fait sien tant d'autres cas humains, tant de situations personnelles difficiles où il se plonge jusqu'au cou, celui-là doit être capable de sortir de sa propre boîte. Or, c'était jusqu'au cou, sans cesse, qu'il tombait dans ses illusions. Il ne s'arrêtait pas, comme le font en ce domaine les faibles et les timides, à ses chevilles ou à ses genoux. Les personnages qu'il crée se mettent immédiatement à hérisser de toutes leurs caractéristiques. Chaque marque et chaque signe, extérieur et intérieur qu'il possède, toute vertu et tout vice, toute force et toute faiblesse, toute passion et toute habitude, le son de leur voix, l'expression de leurs yeux, les tics de leur visage et de leurs membres, les boutons de leurs vêtements, les mets dans leurs assiettes, l'argent dans leurs poches, le mobilier de leur maison, les secrets de leur cœur, sont autant d'objets d'intérêt. Tous le concernent, le gouvernent et possèdent, en vue du tableau, un sens, un rapport et une valeur. C'est une prodigieuse multiplication des valeurs et de ce fait un divertissement prodigieux de la vision, à condition que la vision le puisse supporter.
Did you see any violence with her?
No.
None. Any childhood sexual abuse or physical
yes,
abuse?
Yes, from my father.
Okay. Sexual abuse?
Mm-hmm.
Okay. Physical abuse?
My father used to beat me as well, yes.
Okay. Are you employed at this time?
No, I'm not.
No. Okay. What do you make monthly? Nothing. You don't have any other income?
Nothing at this time. I mean, in Texas I was working. I'm an LPN.
Oh, okay.
And, but I haven't, you know, like I said, I've only been back here, well,
sure
right time. At 3 weeks, yeah.
Okay. So. Can you get your license?
Mm-hmm.
Okay.
Yes.
Somebody can mail it to you? Or?
Right, right.
Okay, great.
They're being sent.
Wonderful. You know, if he did what he did, I don't feel so good about myself. You know what I'm saying? So those are the things that you might want to write on paper so you could see it and say,
yes.
Well, you know, what do I want to do to change these things? You know, how am I going to change my feeling of being trapped? And, you know, the true answer comes from within you. You know, no one can say, well, this is what you need to do. Because it's not that cut and dry. That's not black and white.
Okay, just a moment.
Okay? For each person, it works differently. And what he's done, you know, has affected you in many ways.
Jessica's mom yesterday flat out lied to the teacher and said that I said she was clear of this.
I want to go to downtown. That's where I want to be. I'm in.
Depuis plusieurs années, Frederick Wiseman, l'un des plus grands auteurs du cinéma américain, rêvait de tourner un film à l'Opéra de Paris. Depuis son premier film, Titicut Follies, qui disséquait en 1967 la dialectique ambiguë et terrifiante d'un hôpital psychiatrique, Frederick Wiseman, à travers 35 films, a mis à nu la complexité politique et l'ambiguïté humaine de la plupart des institutions américaines. L'école, High School, en 1968. Le commissariat, Law and Order, en 1969. L'hôpital, Hospital, en 1970. Near Death, en 1988. Le tribunal, Juvenile Court, en 1973. L'aide sociale, Welfare, en 1975. Et Public Housing, en 1997. L'armée, Canal Zone, en 1977. Sinite Field Mission, en 1978. Le grand magasin, The Store, en 1983. Le zoo, la communauté religieuse, les ghettos de pauvres et de riches. L'important n'est pas que la liste soit exhaustive, mais que Frederick Wiseman ait pour élaborer cette comédie humaine à l'américaine repensé la forme de ce que l'on nomme documentaire. Il ne réalise jamais d'entretien, privilégiant le portrait d'un groupe ou d'une institution par rapport au portrait individuel. filme la parole comme l'élément structurel d'un décor et tourne jusqu'à épuisement des lieux, jusqu'à extinction ou au contraire explosion de la puissance dramatique souterraine de toute organisation sociale et humaine. Si la tragédie est le surgissement de la vérité sur une scène, alors Frederick Wiseman a patiemment élaboré la vérité tragique de l'Amérique du XXe siècle, à laquelle répond comme son fantôme, son ombre, le double européen qui le hante, l'événement fondateur que représente pour l'histoire et le cinéma mondiaux la Seconde Guerre mondiale et la destruction des Juifs d'Europe. La première fois que Frederick Wiseman est passé du documentaire à la fiction et aussi du cinéma au théâtre, ce fut ainsi pour adapter le chapitre d'un roman de Vassili Grossman et mettre en scène la dernière lettre d'une mère juive prisonnière d'un ghetto d'Ukraine à son fils. C'est là l'un des secrets ou l'une des ombres de l'œuvre de Frederick Wiseman. Mais son autre ombre, sans doute plus clandestine et qui fournira la matière de ces deux émissions, tient la relation que ce metteur en scène entretient avec la littérature. Auteur d'une comédie humaine analogue au portrait que Balzac dressa de la France, envisageant le montage comme un romancier l'écriture, hanté par le supplément d'âme, d'abstraction, de mystère, par laquelle toute œuvre digne de ce nom se définit, Frederick Wiseman, entre l'automne 2007 et l'hiver 2008, s'est enfin confronté à l'un des lieux qui a le plus inspiré la littérature française du 19e et du début du 20e siècle, l'Opéra de Paris. C'est en face de l'Opéra Bastille, le lendemain d'un tournage qui venait de s'achever, qu'a eu lieu la première rencontre, suivie d'une série d'enregistrements dans sa salle de montage, où il devrait passer plus d'un an.
C'est une idée que j'ai eue depuis très longtemps et je viens de tourner pour presque 10 semaines là-bas. Les spectacles, les répétitions, des choses qui passent dans les coulisses, les réunions de l'administration et je crois que le film sera un profil de la compagnie de danse. Et j'ai suivi les répétitions et les spectacles de 4 ballets. Janus de Wayne McGregor, Médée d'Angeline Préjlocage, Casse-Noisette de Nureyev et Paquita de Pierre Lacote. Et le film sera un peu comme le film que j'ai fait à la Comédie Française il y a 12 ans. Et ce sera un profil de l'institution de la compagnie de ballet. Tout des tours de l'administration et la danse. Pour l'instant, j'ai à peu près 130 heures de rush parce que j'ai terminé le tournage hier soir et à l'instant, je n'ai aucune idée quels soient des thèmes du film ou la balance entre les scènes de l'administration et les scènes de danse et tout ça. Et c'est comme tous les autres films, je dois découvrir les thèmes pendant le montage. Je suis allé aux classes parce que chaque matin, avant les répétitions, les danseuses participent dans une classe et je suis allé des réunions avec Brigitte Lefebvre, l'administrateur, où ils ont discuté les nouveaux projets, les problèmes de danseuses, arrangé la programmation des répétitions, le casting, la publicité, toutes les questions quotidiennes d'une grande compagnie de danse de l'institution française. Et aussi, pendant la période que j'étais là, il y avait aussi une grève et on m'a dit que ça c'est typiquement français aussi. La grève n'est pas le sujet du film du tout, mais il y aura des séquences autour de grève dans le film.
Stacy and I are giving a meeting, and we decided that the best way to get through Christmas is to have a very positive attitude. And in order to have a positive attitude, you have to feel good. In order to feel good, you have to exercise. And the things that are most important for us here are hands, so we can punch the tickets in the cash register, and smiles. So what I thought we should do is we should all get up this morning and we should do facial and hand exercises, because I know you don't want to run, and we don't have time for calisthenics. So everybody get up and we'll do some exercises.
Oh, God.
Wonderful. You told me I had a
something come on, different, it. Didn't you? Come on.
And those shoes.
De rush, mais j'étais là pour à peu près 10 semaines et j'étais là après 12 heures par jour, au moins 6 jours par semaine. Ça fait comme ça, j'étais là 72 heures par semaine pour à peu près 10 semaines. Ça, c'est 720 heures. Et de 720 heures, j'ai tourné simplement 130. Et de 730, le film sort probablement. Je ne sais pas encore si ce sera deux films, chacun 2 heures, ou peut-être une film de 4 heures. Et comme ça, finalement, j'utilise très peu de matériel. Le montage, ça va prendre, je fais moi-même, et ça va prendre 10-12 mois. Ça, c'est normal, mais peut-être ça peut être plus vite, mais je ne sais pas. Mais normalement, c'est 10-12 mois. Cette sorte de tournage, c'est un peu comme une visite à Las Vegas, dans le sens que je n'ai aucune idée. J'ai une idée, je sais qu'il y avait une réunion, il y a des répétitions, mais je n'ai aucune idée en avant qu'est-ce qui va passer pendant cette réunion, ou quelles seront les conversations, quelles seront les indications que les maîtres de ballet vont donner aux danseuses, ou quelles seront les réponses des danseuses. Et comme ça, on doit prendre le risque de tourner beaucoup de films dans l'espoir qu'on va tomber dans les choses intéressantes.
Wiseman, son grand projet, en définitive, c'est de parler d'une société, de ses fondements, de sa ratio, de son essence politique.
Marie-Claude Treillou.
Et de sa nature profonde, à travers des institutions, des grands fonctionnements, des grandes machines que personne ne songe à aller explorer. Et les dissèque jusqu'à leur faire rendre gorge. C'est-à-dire qu'il met tous les mécanismes à nu jusqu'à ce qu'il parle d'autre chose que ce qu'on voit. Et qu'il parle de l'âme d'une nation.
Ce qu'il a fait essentiellement, c'est qu'il a effectué une lecture de l'univers aussi énergique et sonore que possible dans la France de son temps. Son œuvre était à ses yeux à la fois une image du drame de l'homme et un miroir de la masse des phénomènes sociaux, les plus polis, enregistrés, organisés et les mieux administrés, pour cela les plus exposés à l'observation systématique et à la représentation que le monde ait jamais vue. Il y a heureusement d'autres sociétés intéressantes, mais comparativement, elles sont pour un exposé de ce genre complètement mobiles et incohérentes. Elles sont peut-être plus vastes et plus variées, mais d'un caractère moins clos et moins probant. Leur organisation est moins nette, d'une moindre rigueur. Elles offrent moins de catégories, de subdivisions, de juxtapositions. La France de Balzac fournissait à la fois assez de sujets d'inspiration pour une immense épopée en prose et la possibilité d'être réduite à un schéma ou un procès verbal. Pour accorder à son œuvre tous les honneurs qu'elle mérite, nous devrions ajouter qu'elle était suffisamment riche pour qu'on en fît une histoire, puisqu'il se considérait comme un historien patient, un bénédictin du réel, le peintre vivant d'une époque vivante.
Oh, I had a teddy bear for him. Here it is.
The very good news is they're going to take some information from you. They're going to try to place you in a temporary shelter where you can go stay. And then we're working on trying to get you in senior citizens home. And actually, that's really what we're trying to do. So it's going to take a little time. So you have to be patient with us.
But in the meantime, the Department of Human Services is going to find a shelter somewhere else for you to go to get you up out of here for the time being. And then after that, they'll place you in a facility of your own. But in the meantime, we'll be working ourselves to try to find a home or something else for you.
There
you go. You got some clothes or something you want to take with you?
Well, yeah, we'll get you something.
Let's get everything that you really need to take with you now. And we worry about, you know,
getting the apartment secured for you. Find somewhere where they'll store your belongings until you can get it to take with you.
Il ne montre pas tout. Comprenez? Il montre des choses qui peuvent apporter un fragment de signification. Un fragment, plus un fragment, plus un autre fragment vont dégager un sens. Et puis aussi, il reconstitue une histoire. Il reconstitue l'histoire de l'institution, en quelque sorte. Dans son sens, et c'est dans l'histoire de sa, de ce qu'elle est en train de faire. Il y a un début et il y a une fin, quand même.
Dans tous mes films, c'est comme ça, c'est une sorte de mosaïque de tout ce qui se passe dans un endroit, dans une souvent dans un bâtiment. Et cette fois, c'est presque tout se passe dans l'Opéra Garnier et un peu à l'Opéra Bastille. Mais la plupart des films sera au Garnier. Et mais tous est lié à la compagnie de danse. L'explication que je donne souvent, c'est que je choisis un endroit et j'essaie de montrer tout ce qui se passe dans cet endroit. Et l'institution, le bâtiment, mais plutôt l'institution, fonctionne dans le même sens comme les lignes dans une cour de tennis. Tout ce qui se passe dans le bâtiment, dans l'institution, peut être dans le film. Tout ce qui passe dehors de cette institution, c'est un autre film. Par exemple, pour le film à la Comédie Française, quand le film était fini, moi j'ai pensé que tout ce qui a passé à la Comédie Française, dans un certain sens, c'était une réflexion de la vie contemporaine, pas toute la vie contemporaine naturellement, mais des aspects de la vie contemporaine en France. Et je ne dis pas que tous les Français sont les danseuses, mais beaucoup de questions qui sont posées, particulièrement avec l'administration, les grèves, questions de salaire, de retraite et tout ça, ça c'est des problèmes qui existent dans beaucoup d'endroits.
Quand tu avais eu cette idée, c'était est-ce que l'Opéra Bastille existait déjà ou c'était une idée liée qui, à l'époque, c'était Garnier? Ou est-ce que le lieu finalement s'est imposé ensuite? Parce que ce sont deux lieux qui sont très différents. Il y a toute une tradition, on peut dire, de même cinématographique, hein, à l'Opéra Garnier, de espèce de lieu clos. C'est un des lieux les plus mystérieux et les plus... un des moteurs, disons, romanesques en France, depuis le 19e siècle.
J'ai beaucoup joué avec Anvera, mais j'étais connaissante de cette histoire.
Mais qui n'est pas celle de Bastille.
Mais la plupart des répétitions et de l'administration de la Compagnie de danse, c'est à Garnier. La plupart des films étaient tournés au Garnier. Au moins 90% des films étaient tournés au Garnier. Et je ne sais pas s'il y a des mystères, mais il y a des fantômes. Oui, toutes sortes de fantômes. Et c'est un endroit magnifique pour un tournage. Parce qu'il y a toutes sortes de coins, les lumières romantiques et mystérieuses.
Vitia, que cette lettre te parviendra. Bien que je sois derrière la ligne du front et derrière les barbelés du ghetto juif, je ne recevrai pas ta réponse, car je ne serai plus de ce monde.
Frédéric Wiseman rêvait au souterrain et au ballet de l'Opéra de Paris. Une cinéaste française, Marie-Claude Treilloux, auteure d'un des plus beaux films français des années 80, Simone Barbet sous la vertu, et de deux documentaires autour de la musique, Les Métamorphoses du cœur en 2005 et Couleurs d'orchestre, sorti en mars 2008, avait elle aussi le projet de filmer l'opéra. Comment une cinéaste qui n'a cessé de passer de la fiction au documentaire pense-t-elle la relation entre les deux ? Et qu'est-ce que son travail de documentariste doit à la découverte de l'œuvre de Frédéric Wiseman ?
C'est vrai que je recherche des personnages qui conduisent les récits. Par exemple, dans Couleurs d'orchestre, il y a un directeur technique qui conduit un peu, qui est là en filigrane tout le long, et qui, depuis le début, m'a frappée par ses ressemblances avec Louis de Funès ou Fernand Reynaud. Et je trouvais qu'il accrochait mon attention d'une manière, je le trouvais drôle, je le trouvais très piquant, enfin, dans sa manière de faire la moindre chose, le moindre geste, la moindre annonce. Et je me suis un peu attachée à ça. Après, les premiers pupitres, les maestros, etc., ce sont des gens quand même qui sont des personnes et des personnages en même temps. Tous, ce sont quand même d'immenses statures, tous. Donc là, j'avais pas beaucoup de peine à l'intérieur de l'orchestre. Ce sont presque tous des personnages. C'est-à-dire, je vois plutôt dans la personne, tout de suite, l'aspect du personnage. Et je le vois un peu chez tout le monde, en définitive. Je vois la dimension mise en scène de toute existence. Voilà. Je crois que c'est ça à quoi je suis sensible. J'ai compris, subitement, petit à petit, dans ma vie, que la manière d'être était une mise en scène de soi-même. Je pense qu'à partir du moment où on est sur Terre, en quelque sorte, notre vie se passe à se construire un personnage. Et comme nous nous construisons des personnages, nous en sommes. Tous. C'est très démocratique. Nous sommes des personnes et des personnages. Tous. Autant que nous sommes. Alors il y en a qui sont plus discrets que d'autres, enfin vous voyez, qui sont moins frappants. Mais si on se penche réellement sur la moindre personne, on va trouver la dimension du personnage. On va mettre à nu la construction qu'il a élaborée toute sa vie. C'est encore le rôle du metteur en scène, c'est encore autre chose, parce qu'il met en scène pas que des personnages, il met en scène toute une machine diabolique. Alors, là, il est dans l'ordre de la pensée, disons, le metteur en scène. Il pense. Il sent et il pense. Et il faut arriver à mettre ces deux choses-là ensemble. Ou, comme... Si vous avez vu les écrits de Cézanne, c'est ça la préoccupation. Il faut arriver à penser et à sentir en même temps. Ou en tout cas, à laisser la pensée sentir et laisser la sensation penser.
Il ne s'agit aucunement de la manière dont Balzac embrasse la masse énorme de son sujet. C'est absolument comme s'il avait invité, avec un magnifique courage, les anneaux d'un serpent à s'enrouler autour de lui. Pour user d'une image courante, nous dirons qu'il a créé son monstre de Frankenstein. C'est son confrère en création qui peut le mieux s'apitoyer sur son sort, puisqu'il est apparemment possible de le lire d'un bout à l'autre sans jamais se trouver en sa présence. Nous subissons avec lui, de livre en livre, d'image en image, les spires du serpent, surtout ceux d'entre nous dont les réalisations distinguées ne sont produites, comme nous le savons, qu'en la compagnie d'une petite couleuvre. Je m'attache à cette idée pour justifier l'image que j'ai employée ci-dessus en disant qu'il était prisonnier de l'intensité avec laquelle il concevait son sujet comme un tout. Avoir toujours une conscience de la totalité constitue notre effort le plus sage et le plus vertueux. C'est la condition même de la supériorité en art. Balzac était sur ce point d'une sagesse et d'une vertu poussée à un degré exemplaire, si bien qu'il aurait logiquement dû être conduit à des réflexes d'autosatisfaction. Aucun peintre n'a su envisager ainsi sa matière comme une totalité. Pourquoi, si nous sommes de vrais Balzaciens, ne l'applaudissons-nous pas au lieu de lui offrir une considération d'une portée plus grave que n'importe quel discours moralisateur ? C'est en grande partie parce que si vous voulez, avec un courage absolu et sans faille, envisager votre matière comme un tout, en demeurant à la fois l'objet de propos encourageants, vous devez prendre garde à n'en accepter qu'une quantité limitée, impropre à vous étouffer. La vive trouvaille de Balzac fut, pour varier un peu notre comparaison, une bête aux 100 griffes, et le mode d'étreinte dont la bête énergie contre énergie était capable. Sa victime mourait à la 50e phase du processus, et si ce que nous voyons dans la longue galerie où il est reflété n'est pas la défaite, mais l'admirable lutte de résistance, nous sommes néanmoins toujours conscients du fait que l'adversaire est prisonnier de son destin. Il s'est enfermé lui-même, c'est sans aucun doute par sa propre faute, et il a jeté la clé au loin. L'impression d'un aventurier engagé sans possibilité de fuite, naît principalement de la nature si extraordinairement concrète de la matière qu'il modèle. Quand nous travaillons dans un espace ouvert, notre matériau n'est pas classé et catalogué. Nous disposons donc de 100 moyens de nous en sortir, superficiels, sournois, et pourtant passant toujours à notre profit pour remarquables. Balzac, lui, ne disposait d'aucune ouverture. Il considérait que le pays où il avait vu le jour et accomplissait sa carrière lui fournissait, avec son infinité complexité sociale, tout ce dont il avait besoin comme terre, comme mer et comme ciel.
It's going to be a big blow. I can see it coming. Whee!
De ce film dont le souvenir était martelé comme un clou planté dans ma semelle que rien ne pouvait retirer à moins d'une pince spécialement conçue. Aïe, où ai-je mis Titty Cut Follies ? Copie de copie à rendre très vite, ne surtout pas perdre, il n'y en a qu'une. Ouf, elle est là, étincelante comme un diamant sous les décombres. Folie d'avoir revu ce film, folie d'appuyer sur play, folie d'avoir fait saigner la clé. Depuis, le sang ne cesse de goûter. Titty Cut Follies ou la chambre noire de Barbe Bleue. Une pièce fermée à double tour qu'il ne faut jamais ouvrir. Pièce noire qui contient ce que l'homme peut faire de pire en toute impunité. Tel Salaud ou les 120 journées, film qu'on ne voit qu'une fois, la main près de l'œil, prête à interrompre le flux de violence. 24 ans de censure, tout ce que l'Amérique ne peut pas montrer, ne veut pas montrer, ces prisons d'État dans les années 60 où sont internés pêle-mêle, paranoïaques dits dangereux, communistes réfractaires, violeurs récidivistes. Dans ce paysage effarant, l'homme est prisonnier, nu, enfermé dans une cage. Le seul mobilier de sa cellule figure un pot dont il a charge de vider la pisse le matin avant de revenir en courant dans sa cage. Wiseman, témoin oculaire de cette prison d'État, comme il aurait pu l'être d'un accident de voiture dans la rue, presque par hasard. Ce n'est pourtant pas par la seule violence dénoncée que ce film figure un diamant, une clé sanguinolente que l'on apporte en tremblant dans la bouche du magnétoscope, telle l'offrande à l'oracle. C'est par le montage que s'immisce la pensée de Wiseman et par surcroît le cinéma, le jaillissement du cinéma en une colonne de lave brûlante et pérenne. Une pensée octogonale qui irradie et renvoie mille facettes. Une pensée contre l'esprit binaire, une pensée qui démonte la logique du pouvoir. Ce pouvoir qui oppose dans l'espace clos de l'asile un affrontement entre le médecin qui serait maître de la folie et le grand malade, l'assassin, le vassal. Si bien que lorsqu'on entend le psychiatre questionner un prisonnier « How much do you masturbate? 3 times a day » il répond d'un ton péremptoire « Too much ». L'on se croirait au cœur d'un dialogue de Samuel Fuller, pure fiction. Mais non, on insiste, incrédule, à l'étonnement qu'une telle réalité puisse exister. Entre un homme nourri à la sonde et l'habillage du mort, il n'y a qu'un seuil. Entre la cellule et le cercueil, ce n'est qu'une histoire de temps. Entre le psychiatre de cet endroit et le grand malade, on ne sait plus qui est fou, on ne sait plus ce qu'est folie, et d'ailleurs l'a-t-on jamais su. Le système se renverse, le pouvoir est anéanti. Subsiste le sexe du prisonnier que le médecin cache d'un linge avant de le nourrir à la sonde. Le sexe ne doit pas voir. Doté Dieu, il pourrait dénoncer ce lieu, ses pratiques, l'organisation même de la société.
Ça, c'est tous les Derrick. Hein. 130 heures. Je regarde les rushs, c'est tout. J'ai regardé à peu près déjà. Je suis dans le 85e DVK, il y a, je crois, 165. C'est un peu plus que la moitié. Moi, je regarde les rushs sur le DVK, les rushs qui sont synchronisés, et j'ai fait les notes. Je suis en train de regarder le DV Cam 85, je crois. Qu'est-ce que j'avais ici? Répétition sur plateau de Casse-Noisette. Et c'est une séquence avec. Il y a beaucoup de jeunes danseuses qui viennent de l'école de danse en Nanterre.
Et.
Ça, c'est. Quelqu'un de cours de ballet qui s'occupe, qui enseigne comment il doit jouer les rats.
C'était très bien, vous avez fait du Casse-Noisette. Et là, maintenant, on travaille pour la pré-générale. OK? C'est pour vous que je le fais, pour vous habituer au costume. Si vous n'avez pas envie de le faire, ok, on s'en va. Mais vous plaignez pas la prochaine fois. Allez, hop, on continue. Avancez. Et 1 et 2, voilà, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8, c'est bien. Et là, tenez un peu, baissez pas trop la tête alors si ça vous gêne à ce point-là. Mais par contre, allez de droite à gauche. Allez plus de... Titi, chut, chut, top, top. Ne baissez pas trop la tête. Écoute, ça dit quelque chose. Ça arrivera, donc il faut s'habituer à toutes les... tout ce qui se passe. Bon, toi, tu vas t'habituer aussi, parce qu'il n'y en a qu'un. Allez, zouk. Les filles, on reprend là. Quand vous êtes toutes debout, vous êtes toutes debout. Et maintenant, vous ne baissez pas la tête. Mais vous allez à droite, à gauche, on y va. Et 1, 2. Maintenant, toutes de l'autre côté. Déplacez-vous. Maintenant, déplacez-vous sans baisser la tête. Mais déplacez-vous. Et pliez les genoux à la place. Pliez les genoux à la place. Voilà. Et maintenant, on a pris au fond. On essaye d'ouvrir la porte quand on est là, en fait.
Pour moi, si, quand je veux récupérer cette séquence, si je veux récupérer cette séquence.
Si on s'en remet à la parole, évidemment... tout va être dit ou pas dit, dans la plupart pas dit du tout, mais en tout cas on a l'impression d'être renseigné. C'est un bureau de renseignement. Alors qu'évidemment si on essaie de construire des espèces de phrases, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il s'agit de construire une phrase avec une grammaire propre et de les mettre en route les unes derrière les autres, tout ça se prémédite, tout ça se calcule auparavant, très longuement, pour trouver comment va être le sujet, comment va être le verbe, comment va être le complément et l'adverbe. Et petit à petit, on arrive à avancer, à trouver des choses qui font sens dans des blocs qu'on va appeler des séquences. Après, c'est au montage qu'on le reconstitue.
Sur une autre piste, mais les deux pistes sont ensemble maintenant. Ça veut dire que j'ai le choix.
Le bras, comme ça, mademoiselle Héloïse Bourdon. Revoir les bras. Oui, mais pourtant, on remplace bien, hein. Revoir. Oui, les bras. Dents piétinées pour tout le monde, comme ça, je dis à tout le monde. C'est ce que j'aime, toi. Revoir pour tout le monde. Ça, c'est entièrement la deuxième distribution, Patrice. Les filles arabesques. Ne plongez pas. Oh là là, Béatrice, elle l'est plus que ça quand même. Marc, revoir Marc. Portée, fille. Regarde comment il l'a. C'est mieux qu'hier. Trop tard ouvert les bras, Yara. J'ai demandé ça. Eh ben, on va le redire. pour les pieds, Louise.
Oh zut.
Excuse-moi. Norman de Tomvals, appuyé.
C'est complètement confondu, parce que c'était la troisième, quatrième cassette qu'il y avait.
Le documentaire, c'est une mise en scène du réel. Que donc, mise en scène, ça veut dire qu'on observe, on a repéré des scènes qui vont faire le film. Et que ces scènes, il faut qu'on les retrouve d'une manière ou d'une autre. Et si ce n'est pas exactement celles qu'on avait vues au moment du repérage, il faut qu'on les reconstitue, non pas en les faisant rejouer, mais en trouvant des équivalents. Évidemment, une fois que vous avez tourné votre matière, enfin que votre matière est rassemblée, que vous pensez avoir ce qu'il faut, vous allez à la table de montage. À la table de montage, eh bien, c'est une autre réalité qui est là. Puisqu'évidemment, ce n'est plus le réel, c'est du coup la fiction de ce qui est filmé, qui est à mettre en scène de nouveau. Si vous voulez, on repart à zéro avec un autre réel, comprenez ? Et ce réel, c'est le film. Enfin, ce sont les bouts de film. Et après, évidemment, c'est à la fin, tout à fait à la fin, que, après beaucoup, de nombreux deuils, parce qu'il faut vraiment renoncer à tellement de choses qu'on aime, et dans lesquelles on projette plus qu'il n'y a. C'est-à-dire on s'aveugle complètement sur l'intérêt des choses en présence et que on arrive à l'épure finale.
Déjà dans le soutenu, deux, trois déjà on est en train de faire le tour et on s'en va. Et vous êtes toujours en retard. D'accord ? Est-ce qu'on peut refaire cette sortie, s'il vous plaît ?
Balzac promenait la classe la plus élevée de sa comédie, des princes, ducs et inénarrables duchesses, aux pauvres barons de province, dans sa poche, comme il aurait pu transporter un jeu de cartes un peu usagé pour le distribuer d'un geste impérieux à chaque occasion de jeu. Il les connaissait des pieds à la tête, de l'intérieur comme de l'extérieur, connaissait leurs armoiries, leurs quartiers de noblesse, leurs arbres généalogiques, leurs états de service, leurs alliances, leurs relations, ramifications et autres apanages passionnants. Cela est toutefois relativement simple, puisqu'il ne s'agit que d'apprendre. Le vrai miracle se produit lorsqu'il s'attarde sur le terrain de la conscience patricienne, de l'intériorité, du confidentiel, de l'esprit, du tempérament, du ton surtout des gens titrés et altiers. Les questions se multiplient pour chaque scène de la comédie. Il n'en est pas d'autre pour nous faire évoluer dans un pareil nuage d'interrogations. Mais en comparaison, ce que l'on trouve ailleurs, ce sont des nuages de questions ne valant pas la peine d'être posées. La conscience patricienne qui servit de modèle à notre auteur fut-elle aussi merveilleusement stupide, presque sans ironie, souvent en fait avec une certaine sympathie poétique qui la représente ? Son imagination y vit, respire son air parfumé, absorbe cet élément avec un claquement de lèvres de connaisseur. Mais je pense qu'il n'est jamais possible de savoir, même à la fin, si c'est historique ou au contraire s'il est ici assez malencontreusement romanesque. Le côté romanesque a chez lui la même importance que tous les autres. Il représente de la plus étrange façon l'issue lui permettant de s'échapper de la structure close dans laquelle il s'est enfermé. Son aspiration à un univers extérieur vaguement pressenti, comme pourrait l'être le reste du globe. Ce qui le caractérise toutefois, c'est que le meilleur soulagement qu'il ait pu trouver fut de faire entrer le fantastique dans la ronde et de l'adapter en quelque sorte à sa situation.
À partir du moment où on filme de l'art, enfin de l'art en train de s'agir, si on peut dire, forcément, on parle de son propre processus. C'est quasi automatique. Et bon, l'esprit, c'est l'esprit qu'on filme, enfin qu'on cherche. et l'esprit ne se filme pas, c'est une abstraction. Donc ce qu'on filme, évidemment, c'est tout ce qui est susceptible de faire sortir l'esprit. C'est dans ça qu'on est sans doute comme des... Sortir l'esprit, faire sortir l'esprit, vous voyez, comme des magiciens. Esprit, où es-tu ?
Goffman et ses fantômes, Éric Chauvier, anthropologue. Depuis longtemps, je suis troublé par le séjour que l'anthropologue canadien Erving Goffman passe de 1955 à 1956 dans l'hôpital psychiatrique Sainte-Élisabeth à Washington. Il se livre à ce que les sciences sociales nomment observation participante. Procédé consistant, comme son nom l'indique, à participer au quotidien des personnes observées, se faisant oublier ou non, tout en notant ou enregistrant la vie qui prend forme en présence de l'observateur. Lorsque les malades demandent à Goffman de justifier sa présence, il explique qu'il est à Sainte-Élisabeth pour étudier leur pratique. Il ne cherche pas à les tromper sur son statut. Dans la préface de son ouvrage « Asile », il écrit que, pendant un an, il observe, d'aussi près que possible, la façon dont le malade vit subjectivement ses rapports avec l'environnement hospitalier. Il écrit aussi « J'ai étudié l'hôpital du point de vue du malade, mais à travers les yeux de quelqu'un qui ne pouvait pas voir grand-chose, n'étant pas malade, à travers les yeux de l'observateur. » Goffman se laisse souvent enfermer la nuit dans l'hôpital qu'il analyse comme une institution totalitaire. Soit, c'est ce qu'il écrit, un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d'individus placés dans la même situation, coupés du monde extérieur, mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées. Goffman joue lui-même au reclus. Il endosse un rôle dans cette institution qui, dès lors, fait office de scène, ce qu'il développera d'ailleurs plus tard dans sa théorie théâtrale de l'interaction. Un indice abonde en ce sens, touchant à la dimension parodique de l'institution totalitaire telle que la définit Goffman. Elle représente, écrit-il, la figure monstrueuse de l'inhumanité. Elle caricature la vie sociale normale. L'institution totalitaire est à la fois un modèle réduit, une épave et une caricature de la société globale. Quelques années plus tard, en 1964, l'épouse de Goffman, Angelica Coate, sombre dans la folie et se suicide. De toute évidence, ces crises préexistent à l'enquête que Goffman réalise à Sainte-Élisabeth. Une ou deux décennies après cet événement, il devient de bon ton parmi les étudiants en sciences sociales de soutenir que Goffman choisit la vie asilaire comme objet d'étude en fonction de la maladie de sa femme. Certains affirment même que l'épouse de Goffman est enfermée à Sainte-Élisabeth durant l'enquête. Il n'en faut pas plus pour qu'il se pare d'une image romantique qui tranche nettement avec l'objectivité que revendique habituellement la sociologie. Dans quelle mesure Goffman, en s'enfermant à Sainte-Élisabeth, peut-il découvrir quelque chose sur lui, quelque chose qu'il porte en lui et qui est lié à sa vie à l'extérieur de l'asile? Ces questions concernent plus largement la posture de celui qui observe la vie produite à l'intérieur d'une institution dite totalitaire. Le cadre institutionnel permet à l'observateur de rejouer quelque chose de lui-même, quelque chose qui relève du mystère et de la menace, en s'éprouvant dans un espace à la fois clos et parodique. La situation de Goffman me touche d'autant plus que j'ai étudié les pratiques d'une institution accueillant des enfants et des adolescents placés sur décision judiciaire. Rapidement, je me trouve mal à l'aise face à une adolescente que je renomme Joy, dont l'histoire sordide ne se distingue pourtant pas de celle des autres pensionnaires. En fait, c'est son intonation de voix, désincarnée, désaffectée, qui me pétrifie, sans que je parvienne d'abord à identifier ce malaise. Peu à peu, l'écho inquiétant contenu dans sa voix éveille en moi l'idée d'une menace, une menace intime et indicible. Je me sens attiré vers des tréfonds autobiographiques que j'ai l'impression de redécouvrir sous un regard neuf et traumatisant. Ma propre histoire se révèle dans la lumière glauque de l'internat de Joy, sous un jour absolument terrifiant, ravivant des blessures qui me semblent d'autant plus à vif que je les croyais refermées. Rétroactivement, j'ai souvent eu l'impression que cette voix avait agi sur moi sur le principe du film d'épouvante. L'internat peut être conçu comme un cadre totalitaire, parodique et révélateur qui évoque en particulier les films de John Carpenter. Le commissariat d'assaut est une parodie d'ordre. L'espace pavillonnaire d'Halloween est une parodie de vivre ensemble. les espaces carcéraux de Los Angeles 2013 ou New York 1997 sont des communautés reconstituées dans la sauvagerie. Dans tous les cas, il s'agit bien de plonger de façon progressive des êtres plus ou moins vulnérables dans des lieux clos qui imitent la vie et qui ne semblent pas crédibles en tant que tels, puis de laisser des dérèglements, des anomalies se produire jusqu'à ce que les observateurs, contraints, redécouvrent leurs conditions élémentaires de survivants. Si les protagonistes des films de Carpenter se découvrent sous un jour inédit et terrifiant, c'est parce qu'ils sont confrontés à des situations qui leur semblent parfaitement anomiques. La trame des films est guidée par une volonté de parole, par une exigence d'explication. Il faudra finir par mettre en mots une intériorité brutalisée pour que la menace soit mise à distance, mais non éradiquée. Cette heuristique du trouble et l'apprentissage linguistique qu'il provoque caractérisent l'observation de la vie institutionnelle telle que la définit Goffman et telle que je la ressens face à Joy. Aujourd'hui, il est impossible de dire ce que Goffman découvre à Sainte-Élisabeth qui le lie d'une façon ou d'une autre à Angelica Coit. Difficile de savoir dans quelle mesure l'institution devient pour lui un terrain d'expérimentation de ses propres fantômes, de son intériorité brutalisée. Il ne laisse pas de carnet montrant s'il se laisse ou non envahir par ce qu'il observe, non plus s'il cherche ou non à se faire peur. Il n'est pas de signe de défaillance, de perte de repère. Il n'est donc officiellement là que, je cite, « pour observer la vie du point de vue subjectif du malade ». Face à Joy, dans cette vie institutionnelle où chaque pratique est contractualisée, je pense souvent au carnet de Goffman. Je me dis qu'il ne peut pas ne pas contenir certains indices concernant, de près ou de loin, le mal dont souffre Angelica Coit, des signaux semés dans l'objective épaisseur d'une observation scientifique.
Je suis sûre, Vitya, que cette lettre te parviendra. Bien que je sois derrière la ligne du front et derrière les barbelés du ghetto juif, je ne recevrai pas ta réponse. Car je ne serai plus de ce monde.
Il y avait beaucoup des anciens marines qui ont travaillé là-bas. Et quand le canyon a été construit, il y avait des grands roues pour monter et descendre les décors. Et le modèle, c'était les bateaux à voile, les grands bateaux à voile. Et il reste dans le sous-sol beaucoup de ces roues, et c'est fait à la main pour descendre et monter le décor. Tout est fait par l'ordinateur maintenant, mais c'est très intéressant. Moi, je ne suis pas critique d'architecture, mais j'ai beaucoup préféré le Après-Gagné. À cause de cette sens de mystère. Mais le sens de mystère, c'est quelque chose qui existe dans l'imagination à cause de la façon que le bâtiment a été construit. Mais je crois s'il y a un mystère, le mystère, il n'y a aucune différence entre le mystère dans ce bâtiment que dans aucun autre bâtiment. Mais Gagné, c'est un vrai décor. Un décor plus intéressant. Tous les bâtiments sont les décors, mais ça, c'est un décor plus intéressant que Bastille. Et comme ça, l'imagination peut être beaucoup plus active en face de cette grande architecture.
Céline voyage à ta gauche. Oh.
Mais non, mais il faut qu'elle voyage.
Elle sent comme la copine d'à côté, si elle voit plus loin, elle bouge. C'est la même chose avec les Ladilac. Mais là, tu regardes ta tête. Oh, ta main.
la question de la parole, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que... Pour un metteur en scène, quelle différence il y a entre une parole qui est celle, d'une certaine manière, qui a commencé avant et qui continue après. C'est-à-dire cette parole que vous filmez, par exemple, dans Couleur d'orchestre, ou que filme Wyvern, qui est la parole des gens qui sont là et qui parlent, enfin voilà, l'orchestre, dans Domestic Violence, le film qu'il a fait sur les institutions qui accueillent les femmes battues. Bon, c'est comme s'il il arrivait au milieu de quelque chose qui est en train de se dire, voilà, et qui n'est pas du tout, qui n'a aucun rapport avec la parole qu'on voit dans la plupart des documentaires, quand même, hein, qui est celle de l'intervieweur, de la personne plus ou moins présente, mais enfin très présente en général, qui pose des questions. Et du coup, la question de la parole devient, je trouve, très très mystérieuse. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est presque dépersonnalisée. C'est comme s'il y avait une parole qui se dit comme ça, mais qui est peut-être celle de l'institution, justement, plus que celle des personnes même qu'on voit. C'est étonnant pour un cinéaste, je trouve, de se placer face à des gens, parce qu'en l'occurrence, vous n'avez pas écrit ces dialogues-là, par rapport à vos films de fiction. Bon, Wiseman ne les a pas écrits, les dialogues. Il est face à une parole qui fait partie de ce qu'il filme, hein, du coup. Puisqu'il n'intervient pas sur cette parole-là, apparemment, quand il filme.
J'ai dit qu'il fallait lever la jambe.
Je pense à ça, par exemple, dans donc Public Housing, c'est un film qui a été... tourné dans des HLM à Chicago au milieu des années 90, et ça commence par une scène très longue qui revient d'ailleurs d'une femme qui a une sorte de rôle de médiateur, et donc qui passe ses journées il y a des problèmes évidemment permanents, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'eau, il faut trouver des appartements pour une fille mère, pour des gens qui ont... Et donc il y a cette femme là qui passe ses journées au téléphone à appeler, à tirer des sonnettes, etc. Et voilà, et elle parle. Il fait ça. Et le film la prend au milieu, quoi. Arrive au milieu de ça, au milieu de cette parole, et ensuite, comme ça. Je sais pas si c'est quelque chose.
Si, tout à fait. Tu peux réfléchir.
She's a young girl with a baby and nowhere to stay. She's going from house to house, and that's when I get involved. Joy, if people could go around the city and just see how many homeless people there are, how many vacancies. No, I was at the county hospital Monday, and honestly, my heart was just aching to see people, women and men, laying around in the lobby of the hospital in the waiting room, and all of these vacancies in public housing that are being tore up for the lack of people living in them. That's ridiculous.
Dans vos films de fiction, il y avait de l'improvisation ou pas du tout?
Jamais,
oui.
Just sitting here waiting on somebody to move into them, and then they're going to tell me that there's a waiting list. You know, I don't mind getting up there before HUD and telling them just what I'm saying to you because it's not fair.
Parce que c'est pas non plus, c'est pas de l'improvisation évidemment ce que font les gens, mais c'est un statut de la parole particulier au cinéma.
Je crois que c'est une façon de la théâtraliser dans ce cas-là. Vous voyez, c'est une façon de lui donner une dimension.
There's no reason why over 200 vacancies are in Wells alone.
Théâtral.
There is no reason. No, I'm talking about those buildings over there.
De l'introduire sur une scène. Et je crois que Wiseman procède comme ça. Mais c'est peut-être inconscient. Peut-être qu'il ne se le formule pas comme ça. Je ne sais pas comment il se le formule exactement d'ailleurs. Mais il est évident que si on regarde des choses sur leur durée, justement, en les sortant de leur naturalisme immédiat, si vous voulez, vous voyez, qui consisterait à construire une petite histoire comme ça, vite fait, avec des réparties enlevées, de reconstruire un peu le truc, lui, il laisse véritablement des personnages se développer sur des grands monologues ou sur des grands dialogues sur toute leur durée. Et c'est ça qui qui fait basculer les choses, qui fait basculer les choses, qui leur donne une dimension de légende. De légende, voilà. Mais c'est encore une fois la mise en scène de la parole, de l'espace, du temps. Et alors, évidemment, comme nous sommes dans des sociétés actuellement tellement de l'utilitaire, et que aujourd'hui on reconstruit des petits dialogues vite fait, bien fait, des choses qui accrochent, qui passent très vite. Lui, il prend contre-pied presque, je dirais, grec. Antique. C'est la même chose que fait Straub. Autrement. Il essaie de donner le temps de percevoir l'essence des choses. Ça. Oui, c'est juste reconnaître que ce qui se joue à un moment donné entre deux personnes dans la, dans une réalité lambda, que ce qui se joue entre deux personnes a une dimension de cosmique. Une dimension universelle. Voilà, c'est tout.
Auguste Schulte, Bab, already,
huh? Yes,
Auguste Schulte. Auguste Schulte, you're getting a pilot sometime tomorrow at 10 o'clock. Pilot sometime tomorrow at 10 o'clock, over.
Okay, pilot tomorrow morning, 10 o'clock, and in this case, we drop Angola.
That's a roger. The quarantine officer will confirm pilot time, over.
Please repeat.
Roger. The quarantine officer will confirm the pilot time at 10 o'clock over in the morning.
The officer will inform the pilot for 10 o'clock tomorrow morning. Thank you very much.
Roger.
Je crois, point de vue de indication de. Des choses, comment dire en anglais, character, de façon des gens. Il n'y a pas beaucoup de choses personnelles dans le film. C'est un film qui est organisé autour du travail. Le travail de la danse et l'administration de la danse. Mais quand même, il y a des portraits. Parce que je crois que le spectateur de film aura un très bon sens de... les administrateurs, les maîtres de ballet et les danseuses, parce qu'on va les voir et écouter leur échange pendant la période de travail et la façon que nous parlons, ça indique quelque chose de nous, comme cette interview de moi. Je ne sais pas qu'est-ce que ça révèle, mais c'est quelque chose.
C'était Les Fantômes de l'Opéra, Frédéric Wiseman ou Les Scènes de la vie américaine, chapitre 1. Une série de deux émissions proposées par Hélène Frappa et réalisée par Angélique Thibault. À la technique, Philippe Palares et Éric Boisset. Avec Frédéric Wiseman, Marie-Claude Treilloux, Claire Doyon et Éric Chauvier. Vous avez entendu des extraits de Canal Zone, Model, Domestic Violence, Titty Cut Follies, The Store, Public Housing, La dernière lettre et Ballet de Frédéric Wiseman. Texte de Henry James, Honoré de Balzac et La leçon de Balzac, traduction de Chantal de Biasi. Merci à Pierre-Olivier Bardet, Fulvio Balivi et Enrico Ghezzi.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 6 avril 2008.